Europe 1.
Europe 1, 10h, 11h.
Mediapolis.
Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Bonjour à tous, bonjour Catherine.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
C'est donc Mediapolis, l'émission sur les rapports entre médias et politique avec Catherine Ney, réalisée par Jean-Luc Arblade et préparée par Capucine Patouillet. Et aujourd'hui avec nous, l'excellent Vincent Trémollet de Villers, directeur adjoint de la rédaction du Figaro.
Bonjour Olivier, bonjour Catherine.
Bonjour.
Et pour commencer, Canteloup.
Les Républicains élisaient leur nouveau président ce dimanche. Le favori et le grand gagnant est le chef de file de leur député, Christian Jacob, qui est avec nous ce matin. Monsieur Jacob.
Non mais écoute, non, c'est pas Christian Jacob qui vous parle.
Mais c'est qui?
Vous savez pourquoi c'est pas Christian Jacob qui vous parle? Parce qu'on sait pas faire sa voix. Bon bref. Bon, après, Christian Jacob, il va falloir qu'il s'habitue.
Ah bah, hein, parce que non, oui.
Les gens ne sont pas passionnés par l'élection du président républicain. Bon, c'est une réalité.
Ouais, vous voulez dire que cette élection ne suscite pas l'engouement qu'il y avait à votre époque, hein, monsieur Sarkozy. Alors, comment vous l'expliquez, ça?
Comment que j'explique? Pour que chacun comprenne, et les auditeurs, bien sûr.
Ah, quand
est-ce
même.
Que, tiens, voilà, l'exemple. Est-ce que ça vous intéresse de savoir qui va être le prochain tennisman français qui va perdre au troisième tour de Roland-Garros en juin prochain? Est-ce que ça vous passionne de savoir qui va être l'acteur français qui ne va pas gagner le César du meilleur acteur? Bien sûr que non, mais c'est comme ça, c'est la vie. Les futurs perdants, tout le monde s'en tamponne le coquillage. Eh bien, là c'est pareil. Ça n'intéresse personne de savoir qui va être le responsable de la future branlée des Républicains présidentiels.
C'était donc Nicolas Sarkozy chez Nicolas Canteloup sur Europe 1 lundi. Alors, ce qui est frappant avec les médias quand ils parlent de politique, particulièrement de politique politicienne, c'est le conformisme répétitif. Et alors, les commentaires sur Jacob, je ne vous dis pas. Le rassembleur est surtout très timoré, Christian Jacob, dans Causeur. Qu'il ne se passe rien chez les Républicains, dans Marianne. Le choix de la mollesse et de l'inertie dans Valeurs Actuelles. J'ai presque envie de rappeler qu'on nous expliquait quand Helmut Kohl est devenu chancelier qu'il était idiot, que quand Juan Carlos est devenu roi d'Espagne qu'il était demeuré, etc. etc. Et que là, ce serait pas mal si Christian Jacob surprenait. C'est possible qu'il surprenne, Catherine, vous qui connaissez la gente politique masculine mieux que moi.
Mais comment peut-il surprendre? En tous les cas, on sait qu'il ne sera pas candidat à la présidentielle. Il l'a dit.
Et alors?
Bon, ben, il l'a dit, il n'en a pas envie, il n'en a pas l'ambition.
Ah, parce que c'est pas parce qu'on le dit que c'est vrai. Hein.
Ah non, mais chez lui, c'est vrai. C'est aussi vrai qu'Édouard Philippe ne veut pas être président de la République. Voilà,
donc
ça, j'en suis
sûre. C'est pas vrai.
Non, mais,
donc, c'est pas forcément vrai.
Non. Donc, il a été un président de groupe qui
Attendez, Catherine. Oui. Attendez, il faut que Vincent Trémollet nous arbitre juste sur ce point.
Oui.
Parce que vous êtes formel, il ne sera pas candidat à la présidence de la République.
Moi, attendez. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Oui, voilà.
Moi, je dis attendez. Voilà.
Moi, je dis que arbitre. Catherine Ney a absolument raison et que Christian Jacob ne sera pas candidat à la présidence de la République. Et c'est pour ça que les critiques qu'il subit sont injustifiées, même si celles de Canteloup sont très drôles. C'est-à-dire qu'il a des ambitions modestes. Et ses ambitions modestes, pour l'instant, il les réalise. Il a eu une élection large, il y a eu des électeurs, il a encore beaucoup d'élus, il a le Sénat. Donc ça tient toujours. C'est pas en soi un palliatif, c'est un peu avant, mais ça tient toujours. Il me semble que si on compare Christian Jacob avec ses rivaux, c'est-à-dire Stanislas Guérini ou Olivier Faure, franchement, il n'a pas à rougir. Donc il y a une forme d'injustice vis-à-vis de cette élection.
Il a pris Benoît Hamon même.
Et Benoît Hamon. Il a pris un parti moribond, il a eu une élection avec une bonne surprise dans la participation et maintenant il va essayer de l'apaiser pour qu'il y ait une ambition présidentielle qui puisse se proposer et qui sera soit dans le parti avec ceux qui y sont restés, soit à l'extérieur avec Pécresse ou Bertrand.
Alors Catherine va vous dire que vous oubliez un nom. Il a oublié un nom de candidat possible à la présidentielle assez proche de Jacob, si je ne m'abuse. Il a cité Pécresse et Bertrand.
Et il y a François Barrois.
Voilà.
À condition qu'il en ait envie. C'est tout le problème de François Barrois, qui sur le papier est un candidat idéal et qui va travailler avec Christian Jacob. Non, mais pour vous dire qui est Christian Jacob, par exemple, il a été un fidèle de Chirac au moins autant que Jean-Louis Debré. Mais lui, il n'en a pas fait trois livres. Et vous avez vu comme au moment de la mort du président. Il a été discret alors qu'il l'accompagnait tous les ans au salon de l'agriculture, qu'il allait le voir. Et c'est un homme qui est comme ça, discret et qui aime créer de la concorde dans son groupe. Et vous savez, pour tenir un groupe, et encore aujourd'hui, c'est le groupe le plus important à l'Assemblée, c'est un sacré travail dans lequel il joue très finement.
Est-ce qu'on peut s'arrêter un instant ?
Oui.
C'est pas médiapolitique, c'est plutôt psychopolitique.
Oui.
Sur votre critère, que je crois très pertinent et qui n'est pas étudié par la science politique académique, de l'envie. C'est-à-dire, vous considérez qu'une des clés pour devenir président de la République, c'est d'abord d'en avoir envie.
Oui, Nicolas Sarkozy disait toujours, la France se donne à celui qui a le plus envie d'elle. Voilà. Eh bien, pour l'instant, je dirais que François Baroin, qui est séduisant, qui plaît beaucoup aux hommes comme aux femmes et qui a de l'allure, un vrai discours, une voix à nul autre pareille, que l'on verrait.
S'il nous écoute, il va demander votre 06.
Hein. Oui. Non, mais je veux dire, pour l'instant, je crois que c'est quelqu'un qui est convaincu que la politique, c'est le malheur. Et qui, pour l'instant, il est un homme heureux. Il est avocat, et pour l'avoir vu à un concours d'avocat d'éloquence, j'ai été stupéfaite par son talent. Il est très heureux dans sa vie privée, dans sa vie publique, et l'idée de replonger dans la politique et le malheur, il n'en a pas envie.
C'est quand même lui qui a théorisé le poisson rouge, c'est-à-dire qui a dit « un homme politique est comme un poisson rouge dans un bocal et tout le monde voit son moindre mouvement ». Et cette phrase signifie qu'il craint ce qu'est devenu la politique, notamment par la loi de la transparence absolue.
Donc, c'est une tyrannie aujourd'hui.
Moi, il me semble que pour le moment, il n'en a pas envie. Et la politique, surtout à l'échelle présidentielle, c'est comme l'art, c'est comme la création artistique, ça répond à une passion et à une nécessité très profonde. Sinon, on ne prend pas le risque d'exposer sa personne, sa famille et toute son existence.
Bon, et ben voilà, Jacob, il ne peut pas. Baroin, il ne veut pas.
Mais il y en a qui en ont envie.
Et on va beaucoup avoir l'occasion d'en parler dans Mediapolis. En attendant, il y a un autre sujet dans notre pays qui adore se passionner pour des enjeux géopolitiques absolument décisifs. Est-ce qu'il faut ou pas autoriser? Vous voyez de quoi on parle dans quelques instants.
De 10h à 11h, comme chaque samedi, on vous retrouve, Olivier Duhamel et Catherine Ney, dans Mediapolis. Et ce matin, vous recevez le directeur adjoint de la rédaction du Figaro, Vincent Trémollet de Villers.
Alors, le débat public en France, le débat politique depuis maintenant 30 ans, est l'objet d'épidémies récurrentes. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore trouvé le vaccin. Et ça repart sur ce qu'on appelle le voile, qui n'est pas un voile, puisque ça ne couvre pas le visage, mais un foulard. Mais c'est devenu le voile, première victoire de ceux qui ne le supportent pas. Et c'est aussi, à mon avis, pour des raisons linguistiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire foulardé, on ne peut dire que voilé. C'est parce qu'on dit voilé que du coup on dit voile. Mais peu importe, c'est reparti de plus belle. Et alors cette semaine, on aura tout entendu. Moi j'avais cru apprendre quand j'étais jeune étudiant que la valeur dominante de la droite c'était la liberté et celle de la gauche c'était l'égalité. Mais quand il s'agit de ce sujet-là, nombre de gens de droite en oublient complètement le sens élémentaire de la liberté. Votre collègue Yves Tréhard a expliqué que quand il voyait une femme voilée, il quittait le lieu.
Oui, il s'est expliqué derrière quand même.
Oui, il s'est expliqué derrière, très bien, mais il l'a dit. Et puis, écoutez, c'est pas mal non plus, Geoffroy Lejeune, sur LCI lundi.
Est-ce que dans un premier temps, il faut déjà interdire effectivement les sorties scolaires, extrascolaires, comme on dit, aux femmes, aux mamans qui portent un voile? Il faut l'interdire ou pas?
Mais bien sûr, moi je pense depuis longtemps qu'il le faut. Et par ailleurs, je pense que si vous voulez, c'est pas interdire aux mamans, c'est l'interdire aux mamans qui portent un voile. Le
qui
voile, ça,
voile,
ça,
oui,
ça se retire.
Oui.
Mais pardon, mais en fait.
Donc vous êtes pour l'interdiction du voile
dans
en France
public.
Oui,
en
absolument,
France.
Absolument. Dans l'espace public, même privé s'il faut.
Interdire, même dans l'espace privé, le port du foulard aux femmes musulmanes, Catherine Ney.
Ben alors là, il faudrait changer la loi, parce que la loi autorise une femme voilée à être élue, à assister à une sortie scolaire. Non, le problème, moi je passe par tous les... Je ne sais plus très bien au fond de ce que je pense moi-même. En tous les cas, moi j'ai interrogé l'ex-maire de Sarcelles, qui me disait que
député,
dans sa
Pupponi,
ville, député
oui.
de Pupponi, qui me disait qu'à Sarcelles, par exemple, bon, qui est un lieu spécial où toutes les cultures, les religions se mélangent, où il y a beaucoup de femmes voilées, eh bien, si on interdit à une femme voilée de faire des sorties scolaires, il n'y a plus de sorties scolaires. Bon. Et dans d'autres villes où il y a moins de femmes voilées, on le sait aussi, l'éducation nationale finit par demander aux femmes voilées de faire une sortie parce que les mères qui ne sont pas voilées ne veulent pas les faire. Donc elles se dévouent. Et lui, il dit, si une femme voilée qui est musulmane, qui affiche sa religion, met son enfant dans l'école publique, c'est qu'elle croit à l'école de la République. Et elle croit que son enfant va être élevé dans, comme il le faut pour avoir un avenir meilleur, en tous les cas tel qu'elle le souhaite, dans un avenir public. Tandis que si on l'interdit de faire des choses, c'est là où les salafistes peuvent lui dire bah, « Écoutez, venez dans une école coranique, vous voyez bien qu'on ne veut pas de vous. » Et c'est ça le danger.
Mais or,
me disait, et j'ai fini après, il me disait que ce qui a le plus aidé les salafistes à créer des écoles coraniques, ça a été en 2016, vous savez, la rumeur qui a d'ailleurs été alimentée par le pape sur la théorie du genre, c'est qu'on allait enseigner à l'émanuel scolaire les garçons à faire du tricot et de la broderie et les filles à tenir une pelle.
Les abécédaires de l'égalité, ça
voilà,
s'appelait.
Ça s'appelait les abécédaires de l'égalité. D'ailleurs, dispositif qui a été mis en place dans certaines académies est vite retiré. Et donc, c'est ça. Non, mais c'est ça qui
d'accord.
a. Voilà.
Mais j'aimerais bien savoir ce que notre invité Vincent Trémollet de Villers.
Non, mais j'ai fini, je parle plus.
Non, mais bien sûr que vous parlez, ce que vous racontez. Qui devait être, à mon avis, un peu tiraillé, parce que en tant que catholique conservateur, alors en tant que conservateur traditionnaliste, j'imagine qu'il est contre le fait qu'on puisse sortir avec un foulard dans un accompagnement scolaire. En tant que catholique, il pourrait être pour, parce que c'est la liberté de conscience. Et en tant qu'un peu libéral, quand même, attaché aux libertés, il serait pour. Mais à droite, il est plutôt contre. Alors avec tout ça, comment vous arbitrez ?
Je ne parle pas en tant que, je raisonne en fonction des faits. D'abord, première chose, la liberté de conscience est sacrée. Donc chacun peut avoir ses convictions et l'État ne peut pas essayer d'empêcher ses convictions. Ensuite, il y a un certain nombre de règles qui existent et qui existent notamment dans les services publics et à l'école et qui doivent être appliquées. Si on prend l'exemple que vous avez donné, Catherine Ney, les parents mettent leurs enfants dans une école républicaine, c'est une très bonne nouvelle. Mais si la République doit s'adapter à ses enfants, c'est une moins bonne nouvelle. Et donc, il me semble...
Mais ça, je ne le dis pas.
Ouais, hein. Non. Mais donc, il me semble que ces règles doivent être maintenues. Et dans cette semaine un peu hystérique, où on a entendu tout et son contraire, la voix du ministre de l'Éducation nationale, tout à fait apaisée, a dit les mots qu'il fallait dire, il me semble, en disant « le voile ne doit pas être l'avenir de notre société ». Ces mots ont scandalisé les rédacteurs d'une tribune dans Le Monde qui ont parlé de stigmatisation au plus haut sommet de l'État. Alors moi, j'aimerais savoir s'il faut inverser la proposition de Jean-Michel Blanquer et si le voile doit devenir l'avenir de la France et l'avenir de la femme française. Je ne le crois pas et je pense qu'aucune femme en France et beaucoup de femmes musulmanes ne le veulent pas. Donc, ce sujet des accompagnatrices scolaires a été réglé tout à fait calmement par Luc Chatel, par une circulaire en 2012. Là, il a repris des proportions un peu délirantes. Pourquoi ? Parce qu'il y a en arrière-plan le communautarisme, et en arrière-plan du communautarisme, ce qui s'est passé à la préfecture de police de Paris, et que donc le pays est traversé par un certain
nombre... C'est un peu ambigu, votre notion d'arrière-plan. Hein.
Ben non, c'est un fait.
Moi, j'écoute comme ça, de façon un peu approximative.
Non, mais moi,
mon point de vue.
Non, mais c'est un fait. C'est un fait. Il y a eu...
Non, mais attendez. C'est un fait. Non, c'est un fait que je n'ai pas fait mon objection.
Alors, faites votre objection.
Et donc, ne me dites pas c'est un fait, juste pour m'empêcher de parler. Bon, quand vous dites à l'arrière-plan du débat sur les sorties scolaires, il y a le communautarisme, et à l'arrière-plan... Il y a les actes terroristes. Les gens disent « Ah bah donc, c'est lié au terrorisme ».
Je ne dis pas qu'il y a un continuum.
C'est quoi votre histoire derrière ?
Il y a une chronologie. Il y a le président de la République qui, dans la préfecture de police de Paris...
Mais est-ce que ça veut dire que si on laisse sortir les femmes musulmanes avec leur foulard... Mais alors pourquoi vous faites le rapprochement ? Je comprends pas.
Je vous dis que le président de la République a pris la parole. Après l'attentat qui s'est porté à la préfecture de police de Paris, a parlé de société de vigilance et a dit qu'il devait combattre l'hydre islamiste. Il est évident que le port du voile n'est pas l'hydre islamiste, je ne dis pas ça.
D'accord.
Je dis simplement que ça crée une atmosphère qui fait que tous les sujets qui touchent aux problèmes que pose l'islam politique dans notre société prennent une tension beaucoup plus importante. Et je pense que c'est une réalité. Et le débat s'hystérise. Je pense que ce sujet est très grave. Vous avez l'air de considérer dans votre lancement qu'il est un peu secondaire. Moi, je pense qu'il est très grave, mais que
le sujet de
l'islam politique.
Si... Je pense que dans notre pays, passer des heures et des heures à s'engueuler sur le point de savoir si on doit accepter ou pas accepter qu'une musulmane porte un foulard quand elle accompagne des élèves, je trouve ça, tout à fait exagéré. Et en plus, néfaste. Et vous savez quoi ? Si vous permettez, peut-être que vous permettrez, je vous dirai pourquoi dans quelques instants.
Jusqu'à 11h, vous écoutez Mediapolis avec Olivier Duhamel et Catherine Ney sur Europe 1. Olivier et Catherine qui sont accompagnés ce samedi par Vincent Trémollet de Villers, directeur adjoint de la rédaction du Figaro.
Et cher Vincent Trémollet de Villers, il y a un point sur lequel Pupponi, Catherine Ney et moi nous étions d'accord. C'est qu'à se focaliser sur cette histoire des accompagnatrices scolaires avec ou sans foulard ou voile, comme vous voulez, et à en parler pendant des heures, et à entendre les propos les plus délirants, les uns, enfin les plus extrêmes les uns des autres, comme ceux qu'on a cités de Vincent Lejeune, qu'il fallait même l'interdire dans l'espace privé, ou de votre collègue Créard qui quittait le lieu, etc. Le problème, c'est que ça fabriquait de l'islamisme politique. Ça entretenait et ça fabriquait de l'islamisme radical. Vous êtes d'accord ou pas ?
Non. Alors, je suis d'accord dans le sens où on s'attache à quelque chose qui est secondaire et qui ne devrait pas occuper la conversation civique comme elle l'a occupée, quand on sait que l'imam qui a endoctriné Michaël Harpon et qui devait quitter le territoire ne l'a pas quitté, a obtenu des papiers parce qu'il est devenu papa. Mmh. Ça, là, je pense qu'il y a un motif de scandale et de réflexion. Quand on sait qu'il y a un certain nombre de mosquées salafistes où il y a des prédicateurs de haine et qui ne sont pas fermés, là, on devrait... s'en inquiéter. Ensuite,
sur le processus.
Et ça, je suis complètement d'accord avec vous.
Là, moi aussi, je suis d'accord, mais c'est là où ça devient en revanche terriblement compliqué. Parce que c'est très simple de dire qu'on ne peut pas accepter un discours de haine, d'appel à la haine, d'appel à la violence, d'incitation directe ou indirecte au terrorisme, et que ça, hop, on expulse. D'accord. Mais quand on dit, donc, par exemple, d'autres disent, donc, il faut interdire le salafisme. Il faut fermer les mosquées salafistes. Ça n'a pas beaucoup de sens, ça.
Je pense qu'il
y a salafisme et salafisme.
Je vais prolonger ce que j'ai dit tout à l'heure qui a été coupé par la peau. Je pense que plus le sujet est grave, plus il doit être traité avec sérénité, et avec des éléments qui ont peut-être disparu de la parole publique, qui s'appellent le tact et le discernement.
Oui.
Et donc, faisons déjà ce que la loi autorise, avant d'essayer de faire une énième loi pour essayer de rajouter encore quelque chose. Faisons déjà ce que la loi autorise. Et je pense que la non-application de la loi, quand elle existe, participe aussi de la tentation peut-être radicale qui peut exister, c'est certain. Ensuite, sur ce que vous disiez, ce qui est très vrai et très compliqué, qui est l'exige du tact, qui est... Quand on impose quelque chose, on risque de pousser dans les bras des plus radicaux un certain nombre de gens qui ne le sont pas. C'est ce qu'a dit le président de la République à Toulouse en disant « lutte à mort contre le communautarisme et pas de stigmatisation ». Le problème, c'est que vous avez des agitateurs de l'islam politique qui pratiquent parfaitement la logique victimaire et qui, dès qu'on s'attaque à leur volonté communautaire, jouent sur la stigmatisation. Et donc c'est là où il faut des politiques qui abordent beaucoup plus finement les choses qu'elles n'ont été abordées cette semaine, sauf encore une fois, moi je trouve que Jean-Michel Blanquer, quand on reprend tout ce qu'il a
aussi,
pu dire,
bien entendu,
c'est parfait.
Et qui dit c'est pas la loi et c'est pas par la loi qu'il faut le faire. Mais c'est là où la média politique est terrifiante, si vous voulez. Parce que si, supposez que là on passe 5 minutes à débattre sur les différentes formes de salafisme et sur celles qu'on doit accepter et celles qu'on doit refuser. Mais on perd les auditeurs, c'est terminé. Vous ne pouvez pas faire ça dans une chaîne info. Est-ce qu'il faut mettre le foulard ou pas ? Et regardez le petit garçon qui a pleuré. Ah, mais ce foulard, le voile et tout. Et puis s'engueuler là-dessus. C'est simple, c'est facile et ça marche. Et donc, ça, d'une part, ça caricature complètement le sujet, au lieu de parler des vraies questions, là, on est d'accord, et ça hystérise. Donc, il y a quand même une logique du système médiatique 21e siècle
cette histoire, elle est parfaitement médiapolitique. Comment elle naît ? Elle naît de l'intervention d'un député d'un élu du Rassemblement National qui est filmé, qui parle sur Twitter et qui parle le phénomène amplificateur de Twitter est récupéré par les chaînes d'info continue et devient un sujet de politique nationale.
Et jusqu'à l'Assemblée.
Aurait-il réagi de la sorte s'il n'y avait pas eu les attentats à la préfecture de police quelques jours avant ? On peut se poser la question.
Et aurait-il poussé son propos comme il l'a poussé s'il ne savait pas que l'imaginaire de Twitter allait le récupérer et lui faire une réputation. Donc, là, je suis d'accord avec vous, il faudrait se battre, surtout quand on a un tout petit peu de parole publique, pour essayer de restaurer ce qu'il est possible de nuance, de discernement. Et encore une fois, ça ne veut pas dire être pusillanime. Il faut être très ferme, moi, je pense, sur ces sujets.
En fait,
ce n'est pas être bourrin. Non, mais le problème pour Emmanuel Macron, c'est qu'il a un gouvernement complètement divisé. Il y a M. Blanquer qui dit une chose sur laquelle vous êtes d'accord, et moi aussi, non, c'est le bon sens. Mais vous voyez aussitôt que Mme Buzyn prend plus que des distances avec ce qu'a dit un ministre aussi important qu'elle. D'ailleurs, les deux se verraient bien Premier ministre, paraît-il. Donc, vous voyez, et comment Emmanuel Macron...
Alors, moi, je ne comprends pas, oui. Vous allez peut-être m'éclairer, ou Olivier. Emmanuel Macron, depuis un mois, dit qu'il veut... qu'il cherche son Clémenceau, qu'il cherche son Manuel Valls, qu'il cherche son Chevènement, qu'il n'a pas de point d'appui républicain. Il en a là tout trouvé avec Jean-Michel Blanquer, qui fait une déclaration dans la lignée de ce que faisait Valls, avec peut-être moins de coups de menton. Oui. Et plutôt que le soutenir fermement et visiblement, Édouard Philippe et lui... reste dans un en même temps que je trouve qui me surprend. Voilà.
Enfin, Édouard Philippe dit qu'il n'y aura pas de loi...
Voilà.
Pour empêcher les femmes voilées de...
Voilà. Le député de La République En Marche qui dit le voile c'est la France et Jean-Michel Blanquer, on va dire que Jean-Michel Blanquer obtient 60% d'assentiment et l'autre 65% et l'autre 35%.
Voilà, c'est le en même temps. Vous voulez dire que c'est, voilà.
en même temps n'est pas tenable.
Parfait. Vous voyez, dès qu'on va chercher le sujet dans sa dimension la plus sérieuse, l'avantage c'est qu'on est d'accord, l'inconvénient c'est que c'est moins rigolo. Mais rassurez-vous, dans quelques instants, on va se retrouver pas d'accord.
Médiapolis continue jusqu'à 11h avec vous, Olivier Duhamel, et vous, Catherine Ney, mais avec aussi votre invité du jour, Vincent Trémollet de Villers, directeur adjoint de la rédaction du Figaro.
Et qu'est-ce qui s'est passé cette semaine bouleversant les équilibres géopolitiques? Eh bien, la Turquie a décidé d'envahir le nord de la Syrie pour prendre le contrôle d'une partie du territoire jusque-là géré par les Kurdes. En sort renforcé, évidemment, le président Erdogan, évidemment, le dictateur Al-Assad à Damas, et évidemment, Poutine et la Russie. Pourquoi tout ça a eu lieu? Parce que les États-Unis ont annoncé le retrait de leurs troupes dans le secteur. Et aujourd'hui, nous avons une suspension des combats qui donnerait intégralement satisfaction à Erdogan, puisque ça lui donnerait la maîtrise définitive de cette zone frontière, les détails restant à négocier. Donc c'est une déroute pour l'Occident, une déroute pour les États-Unis. Écoutez ce qu'en dit Donald Trump.
Donc nous avons un cessez-le-feu de 5 jours. Pendant ces 5 jours, les Kurdes et les autres vont se déplacer. Ils vont être évacués pour créer une zone de sécurité. C'est ce que la Turquie a toujours voulu. Une bande de 35 km à la frontière, fallait bien qu'ils la nettoient. Et ça, c'est un résultat incroyable. Un grand jour pour la civilisation.
Alors, c'est pas une fake news, hein. C'est pas un son fabriqué par un critique. On pourrait croire quand même que là, c'est un type... et qui veut se moquer de Trump. Pas du tout, c'est Trump lui-même qu'on vient d'entendre, Vincent Trémollet de Villers, jeudi.
Oui, c'est lui, et puis on a lu aussi la lettre qu'il a envoyée à Erdogan, et on n'a pas découvert, parce qu'on l'avait déjà mesuré, mais on a pris justement la mesure du décalage profond entre la gravité des événements et la façon, et la légèreté avec laquelle, voire la grossièreté avec laquelle ils étaient traités. Donc, le problème, c'est que celui qui les traite n'est pas journaliste ou commentateur, mais président des États-Unis, donc à la tête, on va dire, de l'alliance militaire la plus importante.
Et il dit quand même un grand jour pour la civilisation, en explicitant le fait de déplacer des centaines de militaires.
Il emploie ce mot, alors que cette semaine est une semaine de fiasco moral d'abord, parce que les Kurdes ont été abandonnés alors qu'ils avaient été en première ligne de la coalition face à l'État islamique. C'est un fiasco diplomatique absolu, puisque vous l'avez très bien rappelé, nos anciens adversaires sont maintenant les protecteurs des Kurdes qui étaient nos alliés, et nos anciens alliés, c'est-à-dire les rebelles syriens et les Turcs, sont face à nous. Et puis c'est un fiasco politique, parce que l'Europe, qui a peur du chantage, parce que disons les choses, aux réfugiés que pratique Erdogan.
Ignominieux, je recommande l'éditorial du Point de Kamel Daoud, la chronique en dernière page du Point de Kamel Daoud, qui parle de l'ignominie d'utiliser un chantage.
C'est ce qu'il
il
fait.
Il dit un chantage aux crickets, je vous envoie les crickets. Exactement. Comme si c'était des poubelles.
Et dont
comme si
l'Europe,
les centaines de millions de réfugiés étaient des poubelles.
Fait des déclarations indignées et dit nous sommes tous kurdes, mais en vérité ne fait rien à cause de ça. Donc, c'est pas du tout un grand jour pour la civilisation, c'est une semaine très très sombre.
Oui, non, on savait tous que Trump était quelqu'un d'un peu bizarre, qui parlait de manière vulgaire et sans connaître l'histoire. Mais là, depuis quelque temps, avec cette accumulation de tweets, d'ailleurs, Emmanuel Macron a indiqué avoir, la semaine dernière, découvert par un tweet que les États-Unis d'Amérique décidaient de, retirer leurs troupes et de libérer la zone comme tout le monde, hein, pas plus,
vous
voilà.
Vous vous rendez compte où on en est dans la média géopolitique
et après
par
avoir,
tweet.
Oui, et après avoir dit ce qu'il a dit, que vous avez entendu, il a ajouté que dans le fond, les Turcs, les Kurdes, c'était comme des gamins qui se battent et puis après ça s'arrange, enfin... Vraiment, mais je veux dire, ça fait peur parce qu'on se pose la question. D'ailleurs, l'impeachment, c'est une question qu'on se pose tous parce qu'elles m'ont dit, est-ce qu'il est fou ? Parce que ça a passé, ça dépasse les bornes, ça fait peur à tout le monde. D'ailleurs, je veux dire, c'est ce que dit Poutine. Maintenant, Trump fait peur à tout le monde. Alors,
Mais à la limite, s'il faisait peur parce qu'il avait un discours cohérent et rationnel,
mais c'est justement parce qu'il
n'en a pas. On pourrait s'organiser. Mais là, c'est même pas le cas. Il y a quelque chose, je ne sais pas si vous vous souvenez du début de la pièce de Camus, la Caligula. Caligula rentre en disant « Aujourd'hui, je suis Vénus ». Et il y a quelque chose de cet ordre. C'est-à-dire que chaque matin, on ne sait pas ce qu'il est, on ne sait pas ce qu'il va tweeter. Et nos correspondants nous racontent ça au Figaro en disant « alors pour un journaliste, c'est à la fois passionnant et complètement délirant. C'est-à-dire que chaque matin, il peut y avoir une nouvelle foucade, une nouvelle embardée qui fait le contraire de celle de la veille.
Il faudrait introduire dans les motifs d'impeachment les dérèglements psychiques et exiger des expertises psychiatriques tous les 6 mois de Trump pour vérifier qu'il est en état.
Oui, non, parce que c'est peut-être simplement le narcissisme. Et alors le narcissisme fera quand même beaucoup, beaucoup de chefs d'État, mais lui a un point...
Non, d'accord, mais enfin le narcissisme ne provoque pas à chaque fois des conséquences aussi énormes.
Non, mais parce qu'il est à la tête, comme je le disais,
de la première puissance mondiale.
Oui, mais tout homme politique narcissique n'atteint pas même à la tête de la puissance.
Je n'ai pas dit que tout homme politique narcissique.
C'est un cas sans précédent.
Oui, mais je dis que
aucun des présidents américains précédents.
Peut-être que
atteint ce degré de.
Peut-être que
dérèglement psychique.
Le ressort de son dérèglement est d'abord une passion pour lui-même. C'est ça que je voulais dire. Mais oui. Je ne suis pas psychiatre et je ne connais pas personnellement Donald Trump, donc je ne ferai pas de diagnostic.
Voilà. Vous voyez cette conclusion modérée de quelqu'un qui n'a pas pour lui-même une passion débordante. Pendant ce temps-là, l'autre sujet de la semaine, c'est évidemment le énième rebondissement du Brexit dans cette partie de poker à 3 joueurs, puisqu'ils ne sont plus que 3 joueurs en finale du World Championship Texas Hold'em Poker. Avec sa relance, Boris Johnson a réussi à coucher l'Union Européenne. Il est donc maintenant face à la Chambre des communes, dans quelques heures. Commentaire dans quelques instants.
Le directeur adjoint de la rédaction du Figaro, Vincent Trémollet de Villers, et votre invité, Olivier Duhamel et Catherine Ney, jusqu'à 11h dans Mediapolis.
Pas de manif de gilets jaunes, pas de réapparition de Ligonnès, pas de Ligonnès en gilets jaunes,
oui.
Parce que là, les chaînes infos, ils seraient toutes Ligonnès en gilets jaunes. Oui. Du coup, pour une fois, on parle de choses sérieuses sur les chaînes infos, et notamment sur plusieurs d'entre elles, en direct, Boris Johnson à la Chambre des communes. J'arrête là, sinon vous allez couper la radio pour aller sur la télé, ce qui est quand même pas le but. Écoutez-le, Boris Johnson, justement. Nous aussi, on va vous le faire écouter.
J'espère maintenant que mes camarades députés à Westminster vont s'unir pour que cet excellent accord puisse passer la ligne, pour que le Brexit ait lieu sans délai supplémentaire. Et que nous puissions nous concentrer sur les priorités des Britanniques, comme l'amélioration de notre système de santé ou le salaire minimum et des tas d'autres choses.
Brexit with no more delay, c'est l'argument le plus fort. Alors, Alice Baudry, directrice de la stratégie et du développement à l'Institut Montaigne, qui scrute pour nous les médias internationaux, était à Londres cette semaine. Et elle a regardé de près le tourbillon de la presse britannique sous pression, compte tenu de tout ce qui se passe autour du Brexit. Et le fait qu'en ce moment, la Chambre des communes vote. Cette semaine, les journaux ont donc décrypté ce deal en long, en large et en travers et anticipent différemment le résultat du vote, comme résumé dans un article du Guardian. Le Times est peut-être le plus optimiste avec à sa une un ultime obstacle en vue du deal de Johnson. Le journal qualifie d'avance la séance d'aujourd'hui d'historique. Le Daily Express s'appuie sur un sondage révélant que 65% des électeurs britanniques veulent que les députés trouvent un compromis et soutiennent l'accord de Boris Johnson. 65%. Et du coup, en une, un immense « do it, faites-le !» C'est le message clair du public britannique. Le tabloïd The Sun, le plus torchon, a également un message fort à adresser en demandant aux députés « soyez réalistes, prenez le deal ». Le journal déclare que l'accord de Johnson est infiniment meilleur que celui de Theresa May.
Pour le Télégraphe, Johnson lance un ultimatum aux députés. C'est mon deal ou pas de deal. Ce journal pro-Brexit et pro-Johnson déclare sans surprise que Johnson fait face à un complot de la part de l'Alliance des députés de l'opposition. Enfin, le Guardian, traditionnellement de gauche, constate que Johnson obtient son contrat sur le Brexit. Ce n'est plus qu'une question de loterie. Et pour terminer, bien que ce ne soit pas dans l'article du Guardian, le Financial Times a fait ses calculs et estime, lui, qu'il y aura 321 contre, 318 pour. Ce qui est amusant, c'est que ceux qui sont pour le Brexit et cet accord font un pronostic optimiste de leur point de vue, c'est-à-dire « ça va être voté ». Et ceux qui sont contre disent « ça ne va pas passer ». Comme quoi, même quand on est journaliste et qu'on cherche à faire des pronostics, on ne peut pas totalement se défaire de ses préférences personnelles. Alors, Vincent Trémollet de Villers, ça va passer ou pas ?
Moi, je ne me livrerai pas un pronostic, surtout à si court terme. Je suis quelqu'un de prudent. En revanche...
Vous pourriez, parce que vous dites un truc, si c'est vrai, on s'en rappellera, et si c'est le contraire, les gens vont oublier.
Je pense qu'il y a une impression... Si on faisait un sondage chez les journalistes, puisqu'on est dans une émission qui s'appelle Mediapolis, je pense que 100% des journalistes seraient en faveur du Brexit, parce que c'est quand même un événement qui est de l'accord. C'est un événement qui a épuisé les rédactions, les éditions spéciales, les breaking news, tant il a été
ça,
compliqué.
C'est un sens élevé de l'histoire, n'est-ce pas ? Non, je suis fatigué.
Mais c'est. Et là, il y avait une, je vais citer un autre quotidien que le mien, jeudi de Libération, qui titrait Il faut y aller maintenant, qui signifiait aussi peut-être une lassitude des journalistes et de l'opinion sur ce sujet. Après, moi,
c'est lamentable comme motivation, excusez-moi.
Je trouve que ça. Non, mais je vous donne une explication médiapolitique.
Oui. C'est bien, c'est
pas je vous donne maintenant mon regard plus profond sur ce sujet. Je pense qu'on a beaucoup critiqué la démocratie britannique, alors que moi, je trouve qu'on a vu, pendant les 6 derniers mois, un espèce de précipité. Une espèce de précipité des tensions qui peuvent exister dans la démocratie entre la souveraineté populaire, les institutions et le Parlement. Et qu'ils nous ont peut-être donné une leçon. Et quand vous dites à des Britanniques, dites donc ça avance pas votre truc et votre Parlement est vaguement ridicule, ils vous répondent, on n'a pas eu des gilets jaunes tous les samedis dans la rue. Nous, quand on a des problèmes, on le règle au Parlement. Et ça...
Oui, sauf qu'ils ne le réglaient pas. Mais enfin, on va voir s'ils le règlent.
Oui, là, Boris Johnson, ça n'est pas parce qu'on vient de parler de Trump et de sa folie, enfin, pour résumer. Là, c'est pas parce qu'on a les mêmes cheveux, la même couleur sur la tête qu'on est fou. Et moi, je parlais... Un bon spécialiste qui connaît bien Boris Johnson, il m'a dit, mais vraiment, c'est le Britannique total qui est à la fois rapide, très cultivé, il parle grec et latin, bon, et cinglé, fourbe aussi, mais il sait où il va.
Donc,
journaliste, et il sait où il va. Et cet
cultivé,
accord...
cinglé, fourbe, j'adore les portraits de Catherine.
Non, mais je reprends les termes d'un spécialiste qui m'a dit ça. Et c'est tout à fait ça. Oui. En tous les cas, moi j'ai été très surprise à la conférence de presse, là où il y avait à la fois Juncker et lui, et lui qui avait un accord qu'il a vraiment voulu, alors qu'on pensait qu'il pourrait imposer un no deal pendant un temps, un accord sur la déclaration politique où il y a eu beaucoup de choses qui ont été changées. Et lui, à la fin, il parlait comme s'il était un Européen convaincu. Moi, je me pinçais, je me suis dit, mais c'est le plus Européen de tous. Enfin, c'est extraordinaire parce qu'il en espère beaucoup de choses de cet accord. Hein. C'est-à-dire qu'il prendra...
On verra dans quelques temps. C'est vrai que là, il a vraiment fait croire au négociateur européen qu'il avait un foule. En vérité, il avait un tout petit brelan, mais il a vraiment fait qu'il avait un foule et ils sont couchés.
Voilà.
Ça,
et à Bruxelles, on pense qu'en faisant les comptes, même si vraiment l'arithmétique est impitoyable, qu'il devrait, moi je fais un pronostic, c'est pas moi, hein, je reprends, ce que, il devrait y passer à 3-4 voix, mais il est possible qu'il passe.
Bon. Allez, moi je dis comme vous, il va passer et Trémollet comme d'habitude se mouille pas.
Si, ça devrait passer parce que
on n'aura pas l'air de con si ça passe.
Il y a beaucoup d'Européens qui veulent que ça passe et le premier d'entre eux c'est quand même Emmanuel Macron qui doit prendre la présidence de l'Union Européenne en 2022 lors de le semestre de l'élection présidentielle et qui voudrait pas que tout le processus soit ralenti par un report du Brexit qui fait que les Anglais resteraient dans l'Union Européenne avec un certain nombre de conséquences institutionnelles.
Ah, voyez le talent de Vincent Trémollet de Villers, qui est le premier à avoir repéré qu'en premier semestre 2022, c'était une présidente française du Conseil européen. On a bien fait de l'inviter. Et Catherine.
Non, mais surtout.
Non.
Non, vous voulez plus
si.
Non, mais je dis que
oui,
si.
Oui, je veux, mais dans quelques instants.
Ah, ben d'accord.
Jusqu'à 11h, vous êtes avec Olivier Duhamel et Catherine Ney pour Mediapolis. Ils reçoivent ce samedi le directeur adjoint de la rédaction du Figaro, Vincent Trémollet de Villers.
Ouais, mais j'ai un petit problème avec Catherine, c'est que c'est pendant les coupures qu'elle dit du bien de Macron. Et puis que dès qu'on revient, elle redevient critique. Alors là, je vais vous faire entendre Macron, puis vous allez dire après ce que vous en pensez.
Mais ça alors, c'est une...
De quoi ?
Mais on n'a pas, vous n'avez pas le droit de dire des choses pareilles, parce que ça ne correspond pas à la réalité du tout.
Mais si, là, vous avez dit du bien pendant la coupure.
Eh bien, je vais en dire, après la coupure.
Ah bon, d'accord. Très bien, parfait. Bon, on écoute Macron.
Madame la chancelière, chère Angela, je suis très heureux de vous accueillir à Toulouse pour ce nouveau conseil des ministres franco-allemands et préparer un moment européen essentiel avec le conseil européen à Bruxelles et plus encore préparer la mise en place d'une nouvelle commission européenne qu'Ursula von der Leyen qualifie à juste titre de commission géopolitique. Nous le voyons chaque jour, les crises du monde, les fractures de notre continent et de notre voisinage nous imposent plus que jamais d'agir ensemble, même et surtout quand cela est difficile. Et c'est pourquoi je considère que cette coopération est essentielle.
C'était mercredi à Toulouse, la conférence de presse. Alors, madame l'éditorialiste, chère Catherine, je suis très heureux de vous accueillir à nouveau pour la co-animation de cette émission. Et que vous nous disiez donc sur Macron en Europe aujourd'hui, quel est votre degré de satisfaction ?
Eh bien, ma satisfaction, c'est de voir qu'au sommet... de Bruxelles, le dernier, là, il s'est opposé à l'élargissement de l'Union européenne à la Macédoine du Nord et à l'Albanie, auxquels les autres étaient favorables. Parce qu'il a dit, moi, comment voulez-vous que j'explique à mes concitoyens que le deuxième pays qui demande le plus l'asile politique en France, ce sont des gens qui viennent de l'Albanie. Et ça, quand vous parliez des Albanais à Gérard Collomb, ça, c'était sa hantise. Parce qu'il y en a partout qui arrivent, qui ne repartent pas, qui font des pillages et qu'on arrête souvent et tout ça. Donc, il disait, les Albanais n'ont aucun droit de... Voilà. Et donc, il faut pour l'instant... Mais surtout, je crois que le président Macron a raison, c'est-à-dire qu'à 27, maintenant, l'Europe n'est plus qu'à 27, avant d'élargir...
27,5 pour l'instant.
Oui, 27,5. Avant d'élargir, il vaut mieux quand même réformer l'Union européenne, revisser les choses pour que ça marche mieux. Okay. Et là, moi, je suis totalement d'accord avec lui. Et je le remercie d'avoir dit non.
Vincent Trémollet, il aime les mots, Macron, à un point. Alors là, par exemple, il dit une nouvelle commission géopolitique, comme dit Ursula von der Leyen.
C'est pas un mot déplacé ?
Non, je ne dis pas que c'est déplacé. Non, c'est inusuel, on ne dit pas une commission géopolitique. Non, il aime bien employer des expressions inusuelles.
Il aime les mots, vous avez d'ailleurs consacré un livre à ces mots, et il faudra faire
le but n'était pas de
non,
faire
y a,
de la pub.
Non, mais il y a un deuxième volume, parce qu'il y en a...
4 euros.
Il y en a quelques autres qui sont arrivés depuis.
Oui.
Il aime les mots, mais il y a quand même eu un événement important, et là, quand on parle d'Europe, il faut toujours citer Jean-Louis Bourlange, parce qu'il fait partie de ceux qui connaissent vraiment bien le sujet.
Éditorialiste au Figaro et ancien député européen.
Ancien député européen, pas éditorialiste au Figaro, ce serait bien qu'il le...
Intervenant
au Figaro. Et qui disait que l'événement n'était pas le fait que Sylvie Goulard n'ait pas pu devenir commissaire. L'événement, c'est la colère qui a suivi du président de la République, avec notamment cette formule « je ne comprends pas » qu'a employé Emmanuel Macron. Et là, on a vu un décalage important entre ce que l'on pensait qu'Emmanuel Macron incarnait en Europe, c'est-à-dire forme de nouveau monde européen dans lequel le Parlement européen aurait un rôle autonome, et la réalité, c'est-à-dire qu'il avait, d'après ses propres termes, décidé avec Ursula von der Leyen et les chefs de groupe qui serait commissaire et comment Sylvie Goulard serait commissaire, et ça ne s'est pas passé de la sorte parce que les parlementaires ont usé, et Jean-Louis Bourlange s'en félicitait,
connaît l'Europe,
de leur liberté.
C'est qu'en France, en effet, si vous mettez d'accord avec le président du parti et le président de groupe, ça obéira, et quiconque connaît un peu le Parlement européen sait que c'est de la blague de croire que ça fonctionne
pas. En plus, Ursula von der Leyen n'a absolument pas téléphoné au président de groupe pour leur demander de soutenir Sylvie Goulard. Ils n'ont pas reçu de coup de fil d'elle.
Donc, après les compliments, on rappelle le vrai
fait. Les nuances,
raté,
évidemment.
Le vrai raté lié à une incompréhension. Parfait. Parce que c'est une émission ouverte, libre, contradictoire, de qualité, Mediapolis. Pour terminer, nous avons choisi à propos du drame des Kurdes et aux antipodes de ce que ose dire le président américain sur la grande victoire de la civilisation, une chanson peut-être pas très connue, mais surtout une chanson qui date de 1992, pour vous dire à quel point le drame kurde est une histoire terrible qui se répète. C'est une chanson de Pierre Perret qui s'appelle « La petite Kurde ».
Petite, si tu es kurde, écoute-moi. Il faut partir et quitter ton chez-toi. Moi j'ai connu ton sort, j'ai tutoyé la mort. On n'a jamais raison contre un soldat. Ils étaient cent autour de ma maison. Au mur il y avait de l'ail et des poivrons. Le vent était si doux, le ciel était si clair. Et mon père est tombé dans un éclair. C'était un matin calme de septembre. Ils ont amené ma mère dans la chambre. Grand-père dans ses mains pleurait comme un enfant. Dehors on entendait hurler maman. Grand-mère faisait du pain dans la cuisine. Elle s'effondra le nez dans la farine. Et sur son cœur éclos la fleur d'un géranium. Dernier hommage qu'elle ait reçu d'un homme. Grand-père à coups de crosse dans le dos implorait la pitié de ses bourreaux. J'entendais les soldats qui riaient tant et plus. Et maman sur son lit ne criait plus. Puis soudain le soleil s'est endeuillé. Les obus éclataient comme des œillets. La mort faisait ripaille jusque dans mon jardin. Il n'y poussait plus que des orphelins. La pluie qui avait cousu tout l'horizon faisait fumer les ruines des maisons. Et tout en m'éloignant du ciel de Babylone, j'ai compris que je n'avais plus personne. N'écoute pas les fous qui nous ont dit la liberté est au bout du fusil. Ceux qui ont cru ces bêtises sont morts depuis longtemps. Les marchands d'armes ont tous de beaux enfants. Depuis la nuit des temps, c'est pour l'argent que l'on envoie mourir des pauvres gens. Les croyants la patrie, prétexte et faribole, combien de vies pour un puits de pétrole. Petite, si tu es kurde, il faut partir. Les enfants morts ne peuvent plus grandir. Nous irons en Europe, si tel est notre lot. Là-bas, ils ne tuent les gens qu'au boulot.
On dirait un reportage poétique et désespéré d'aujourd'hui, alors que c'est une chanson d'il y a 27 ans.
C'est incroyable.
C'était Mediapolis. Vous pouvez faire écouter en podcast sur europe1.fr. Merci à Jean-Luc Arblat qui l'a réalisé, à Capucine Patouillet qui l'a préparé. Merci à notre invité Vincent Trémollet.